Et je vous invite à prendre vos Bibles et à les ouvrir dans la première épître de Jean. Et nous entendrons la lecture qui sera donc la base de la prédication de tout à l'heure. Donc 1 Jean, chapitre 2, verset 29 à 3, verset 10.
Alors je vais commencer au verset 28. « Petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère.
Je vous invite donc à garder vos Bibles ouvertes dans la première épître de Jean, au chapitre 2, 29 à 3, 10. Une maison inhabitée ne sera jamais illuminée. D'ailleurs, si elle est inhabitée, elle va se détériorer. Et elle n'est utile à personne. Eh bien, si ce matin le Saint-Esprit n'agit pas dans nos cœurs, nous sommes comme une maison inhabitée. Nous comptons donc sur sa présence, sur son œuvre, et que la parole de Dieu, il nous illumine, nous transforme et nous rend utile. C'est ma prière. Nous sommes dans une série sur la première épître de Jean, et nous arrivons aujourd'hui à ce texte. Et la première épître de Jean a été écrite dans le but de fortifier l'assurance des croyants qui sont restés dans l'Église. Plusieurs personnes étaient sorties de l'Église. Elles s'étaient détournées de l'évangile de base de Jésus-Christ. Cet évangile qui ne changera jamais. Hein, si on vient vous dire il y a une nouveauté, c'est un peu différent, ben ça va souvent se déplacer de la vérité au mensonge. Non, l'évangile ne change pas. Il est parfait. Dieu l'a totalement accompli. Et d'après ce que Jean indique à ses lecteurs, nous pouvons dresser un portrait robot de ceux qu'il appelle antichrist. Nous avons vu ça la dernière fois. Et j'aimerais simplement vous donner 9 caractéristiques que nous pouvons trouver dans ces deux premiers chapitres de ceux que Jean appelle les antichrists. Premièrement, ils disent être en communion avec Dieu tout en vivant dans le péché. Deuxièmement, ils disent même ne pas pécher. Ils disent connaître Dieu, mais ne gardent pas ses commandements. Ils disent être dans la lumière, mais ils ont de la haine pour les frères. Ils disent aimer le Père, alors qu'en fait, ils aiment le monde. Ils disent être membres du corps de Christ, mais ne demeurent pas avec les croyants. Il nie que Jésus est le Christ, Dieu le Fils, et qu'il est venu en chair. Ils sont sans loi. Certains disent, après la loi, la grâce, ou après l'air du poisson, l'air du verseau. Et neuvièmement, ils ne pratiquent pas la justice. Mais comment le pourraient-ils sans la loi? Après avoir présenté des tests qui permettaient aux croyants d'être rassurés et de faire le tri, Jean, par le Saint-Esprit, veut que ses lecteurs soient rassurés, qu'ils comprennent la bonne manière ce que signifie être enfant de Dieu, né de Dieu. Et il va souligner le lien entre l'identité et la pratique. Ce que l'on est et ce que l'on pratique. En fait, d'être né de Dieu est la conséquence dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est pourquoi j'ai intitulé cette prédication « Né de Dieu, c'est être juste et pratiquer la justice ». Né de Dieu, c'est être juste et pratiquer la justice. Et le contenu du verset 27, qui a son écho d'ailleurs au verset 7 du chapitre 3, sera le départ de notre prédication, car je crois que Jean nous explique en fait ce qui est dans ces versets, dans tout ce texte. Le verset 29, si vous le regardez avec moi, qui dit « Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. » Cela nous conduira dans trois points que voici. Le premier sera intitulé « Celui qui est pratique ». Où nous verrons une clé importante donnée par Jean pour démasquer et se séparer des faux enseignants. Deuxième point, nous verrons les faits concernant l'enfant de Dieu. Tout ce que Jean déclare être vrai pour l'enfant de Dieu dans ce passage. Et troisièmement, puisque nous parlons du fait, en troisième point, nous parlerons des conséquences dans la vie de l'enfant de Dieu. Tout ce qui découle de ce statut qui va motiver l'enfant de Dieu à agir. Commençons donc par celui qui est pratique. J'aimerais en fait tout d'abord vous aider à comprendre une grande erreur de ceux que Jean appelle, au verset 10 du chapitre 3, les enfants du diable. Le test que nous avons vu lors de la dernière prédication sur 1 Jean est fondamental pour comprendre leur erreur que Jean dénonce tout au long de son épître. Et voici l'erreur à ne pas faire. Voici l'erreur à ne pas faire. Il ne faut pas séparer la divinité de Jésus, qui il est dans sa nature parfaite, il ne faut pas séparer la divinité de Jésus, qui il est dans sa nature parfaite, et son humanité qu'il a vécue dans la chair. Il ne faut pas séparer la divinité de Jésus, qui est dans sa nature parfaite, et son humanité qu'il a vécue dans la chair. Ne pas séparer, c'est la clé pour comprendre l'erreur dénoncée par Jean. L'identité divine de Jésus-Christ n'est pas séparée de son humanité vécue dans la chair, dans la vie de tous les jours, dans ses paroles, dans ses gestes, dans tout ce qu'il a fait. Par exemple, si Jésus est juste, eh bien il pratique la justice. Car il serait impossible de dire que Jésus est juste s'il ne pratiquait pas la justice. D'accord ? Si. Il ne faut pas séparer qui est Jésus, son identité, de sa condition humaine, de sa vie dans la chair. C'est une union non explicable, mais qui est un fait. Et celui qui ne croit pas cela, ne croit pas au christianisme biblique. Les gnostiques et autres illuminés disent que l'esprit peut être pur et le corps peut ou même doit pécher. Ils font souvent la distinction entre l'être intérieur et l'être extérieur, ou entre le corps spirituel et le corps charnel. Il sépare l'identité de l'incarnation. Et le croyant ne doit pas tomber dans ce piège. Et voici l'erreur à ne pas faire, pour le croyant cette fois-ci. Il ne faut pas séparer l'œuvre de Dieu en nous, notre nouvelle identité, notre nouvel état. Il ne faut pas séparer l'œuvre de Dieu en nous, notre identité, notre nouvel état, et notre façon de vivre dans la chair, dans le corps qui nous a été donné et qui va disparaître. Il ne faut pas séparer. Si nous séparons, nous nous éloignons de ce que la Bible enseigne. Voici l'erreur à ne pas faire. Il ne faut pas séparer l'œuvre de Dieu en nous, notre nouvelle identité, notre nouvel état, et notre façon de vivre dans la chair, dans le corps qui nous a été donné et qui va disparaître. Il faut qu'il y ait une cohérence. Si vous voulez, votre théologie théorique doit être la même que votre théologie pratique. Mais les adversaires de l'Évangile faisaient justement une distinction. On a vu d'ailleurs la dernière fois que tout le mouvement du Nouvel Âge est exactement dans la même direction. Mais il ne nous faut pas séparer ce que Dieu a fait en nous et ce que nous faisons dans notre vie pratique. Les déclarations de ce que nous sommes en Christ, ces faits, doivent nous pousser à vivre des conséquences. Il y a des conséquences dans notre vie de tous les jours de qui nous sommes en Christ. Et Jean a commencé à le démontrer, d'ailleurs depuis le début de son épître. Je vais juste avec vous revenir un petit peu en arrière dans cette épître, vous montrer qu'il l'a déjà dit, il en a déjà parlé. Voici quelques faits et leurs conséquences. Si vous venez dans Jean 1, il dit que si quelqu'un est en communion avec Dieu qui est lumière, hein, Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. On a vu ça dans 1 Jean 1:5. Donc si quelqu'un est en communion avec Dieu qui est lumière, la conséquence est qu'il pratique la marche dans la lumière. C'est encore un peu théorique. Bon, allons-y pratiquement. C'est-à-dire qu'il voit le péché dans sa vie. C'est ça. Celui qui est en communion avec Dieu et qui est lumière marche dans la lumière. C'est-à-dire qu'il voit qu'il a des péchés et qu'il pêche. Celui qui marche dans les ténèbres ne voit pas de péché. Il se croit juste par lui-même. Vous savez, dans la nuit, on ne voit pas la boue. Vous avez déjà vu ça? On ne voit pas la boue la nuit. C'est seulement quand il y a de la lumière qu'on la voit. Et bien quand nous marchons dans les ténèbres, nous ne voyons pas le péché. Il n'y en a pas. On est juste. Et si nous marchons dans la lumière, voilà un des éléments, un fait avec une conséquence. Ou bien si quelqu'un confesse ses péchés, il y a une conséquence. C'est qu'il est pardonné et purifié. 1 Jean 1:9. Si quelqu'un connaît Dieu, quelle sera la conséquence? Il va garder ses commandements. S'il connaît Dieu, il va garder ses commandements. 1 Jean 2:3. Ou si quelqu'un est dans la lumière, la conséquence est qu'il aime son frère. 1 Jean 2:9 et 10. C'est simple, c'est une conséquence. Il est dans la lumière, donc il aime son frère. Si quelqu'un aime le Père, la conséquence, c'est qu'il n'aime pas ce que le Père déteste. Il n'aime pas la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ce qui décrit le monde. Hein. Non, il fait la volonté de Dieu. Celui qui aime le Père, la conséquence, il déteste ce que le Père déteste. Ou bien il n'aime pas le monde, si vous voulez, selon les paroles de Jean. Ce qu'un homme vit avec Dieu va se voir dans sa vie de tous les jours. Il n'y a pas de déconnexion. La séparation n'existe pas. C'est un faux enseignement. Ça n'existe pas. Si quelqu'un dit avoir une nature qui a changé, lui permettant de vivre dans l'eau. Voilà un problème. Si quelqu'un dit, j'ai une nature qui a changé, maintenant je peux vivre dans l'eau. C'est une image. Hein. La conséquence sera qu'il ira vivre dans l'eau. Ou bien, s'il n'y va jamais, ou bien si en fait, quand il y va, il ne peut pas vivre sans ressortir, c'est un menteur. Eh oui. Si j'ai reçu une nouvelle nature pour aller vivre dans l'eau, que je vis dans l'eau, puis quelque part que j'en ressors parce que je n'arrive pas à vivre dans l'eau, j'ai pas reçu une nature pour vivre dans l'eau. C'est logique, non? Lorsque Dieu change le cœur, la mise en pratique suit. J'ai entendu l'histoire de personnes qui avaient subi la torture à cause de leur foi. Et un jour, ils ont été sortis de leur cellule. Des libérateurs sont venus, ils ont sorti. Ils ont sorti des personnes plutôt cadavériques, vraiment mal en point. Et ces libérateurs ont donné la possibilité à ces personnes de traiter leurs bourreaux comme ils le voulaient. Et aucun ne leur fit du mal. Parce qu'ils pratiquaient ce qu'ils étaient, des ambassadeurs du royaume de Dieu qui ne rend pas le mal pour le mal. Leur identité avait été mise en pratique dans leur vie. Celui qui est pratique, ou alors il n'est pas ce qu'il prétend être. Celui qui est quelque chose le pratique, ou bien il n'est pas ce qu'il prétend être. Quelqu'un m'a dit un jour, je ne suis pas celui que tu penses. Sous-entendu, je suis bien meilleur que ce que tu penses. Mais ses actes criaient si fort que sa prétention mensongère était bien triste à entendre. Nous pratiquons ce que nous sommes et cela se voit, ou alors nous ne sommes pas ce que nous pensons être. Être chrétien, c'est poursuivre la sainteté. C'est se repentir lorsque la lumière de Dieu éclaire un péché dans notre vie. Et faites attention à l'inversion qui se passe si souvent. Nous ne recevons pas une nouvelle nature parce que nous pratiquons quelque chose. C'est parce que nous avons cette nouvelle nature que nous le pratiquons. Je vais vous lire une citation de Keller ici qui vient dans cette direction. La religion enseigne que si j'obéis, Dieu m'aimera et m'acceptera. Ça, c'est la religion. Ou c'est la... toutes sortes de choses qui ne sont pas l'évangile. La religion enseigne que si j'obéis, Dieu m'aimera et m'acceptera. Mais l'évangile, c'est le contraire de cela. Si je sais dans mon cœur que Dieu m'a accepté et m'a aimé librement par sa grâce, alors je veux et je peux commencer à obéir, motivé par la joie intérieure et la gratitude. Vous voyez la différence? C'est totalement l'inverse. Nous n'obéissons pas pour que Dieu nous accepte et nous aime. Parce que Dieu nous accepte et nous aime, nous lui obéissons. Ce premier point, celui qui est pratique. Jean va maintenant toucher un sujet qu'il aime tout particulièrement. Un fait qui a des grandes conséquences. Si Paul parle de l'adoption, Jean parle de la famille de Dieu, de la naissance, de la nouvelle naissance, etc. Et nous allons, dans ce deuxième point, parler des faits concernant l'enfant de Dieu. Et voyons maintenant tout ce que Jean déclare être vrai pour l'enfant de Dieu dans ce passage. Et je vous encourage à reprendre vos Bibles dans 1 Jean 3:1. Vous vous souvenez du verset 29 du chapitre 2 ? Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Né de lui. Être et pratiquer, c'est ce que nous avons vu au premier point. Et nous allons réfléchir maintenant à cette expression « né de lui », « né de Dieu ». C'est la première mention de ce lien filial entre le croyant et Dieu dans 1 Jean. Et la suite de notre passage, en fait, développe cette pensée avec une parenthèse où Jean développera la purification qui est un trait caractéristique, en fait, des enfants de Dieu. J'ai trouvé, en fait, 4 faits concernant l'enfant de Dieu dans ce passage et 4 conséquences dans ce même passage. Donc, afin d'avoir bien en tête, je vais le relire. Et vous pouvez déjà essayer de les voir. Les 4 faits et les 4 conséquences dans ce texte. Alors, relisons ensemble. Donc, 1 Jean 2, 29 à 3, 10. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui le Seigneur est pur. Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi, et le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter les péchés. Il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui, le Seigneur est juste. Celui qui commet le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Voilà, vous avez trouvé les 4 faits, les 4 conséquences. On peut s'arrêter là. Non, je vais vous aider un petit peu. Donc nous allons voir donc les 4 faits, je vous les donne tous en un coup, et ensuite on en parlera un tout petit peu. Et puis, nous irons ensuite dans le dernier point. Alors, premièrement, nous sommes enfants de Dieu par l'amour que Dieu donne. Enfants de Dieu par l'amour de Dieu. Je vais l'expliquer. Deuxièmement, les enfants de Dieu non connus du monde. Non connus du monde. Troisièmement, enfants de Dieu pas encore pleinement manifestés. Enfants de Dieu pas encore pleinement manifestés. Et quatrièmement, quelque chose d'assez mystérieux, disons, mais grandiose, enfant de Dieu portant la semence de Dieu. Ça, c'est 4 faits. Enfant de Dieu par l'amour que Dieu donne, enfant de Dieu non connu du monde, enfant de Dieu pas encore pleinement manifesté, enfant de Dieu portant la semence de Dieu. Donc, enfant de Dieu par l'amour que Dieu donne. Personne ne peut naître par lui-même. Personne ne peut dire un jour « je veux naître ». c'est un peu bizarre, mais non, c'est pas possible, en fait. Non, notre naissance physique est le fruit de l'amour. Alors quand c'est vécu dans le contexte voulu par Dieu. Et notre naissance spirituelle est aussi le fruit de l'amour. C'est l'amour de Dieu. Car par amour, Dieu nous appelle enfants de Dieu. Déjà même le simple fait que Dieu dise que nous sommes ses enfants est quelque chose de merveilleux. Alors bon, si vous ne connaissez pas Dieu, c'est pas merveilleux. Je sais pas qui c'est. Mais si vous connaissez un petit peu Dieu, le Tout-Puissant, le Roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs, celui qui a fait toutes choses, et que c'est lui qui dit « Tu es mon enfant », ça commence à revêtir quelque chose d'un petit peu plus grand. Et quand on commence à toujours plus connaître qui il est, eh bien nous commençons à voir la merveille lorsqu'il nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Et non seulement il le dit, hein, vous le voyez dans le verset 1, non seulement il dit que nous sommes enfants de Dieu, mais nous le sommes. C'est une réalité. Et Jean l'avait déjà expliqué dans son évangile. Les auditeurs ici, les lecteurs, avaient déjà l'évangile de Jean. Dans Jean 1, au chapitre 12, il est dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom, et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Nés de Dieu. On avait déjà ça dans l'évangile. Tous ceux qui sont nés de nouveau, comme Jésus l'avait expliqué à Nicodème, sont nés d'en haut, nés de Dieu, nés de l'amour de Dieu. Nous pouvons appeler Dieu Père, un Père qui a un amour totalement parfait, complet, pur, sans défaut. Vous imaginez ça? Un amour parfait, complet, pur, sans défaut. Ça, c'est le Père que nous avons. C'est Dieu. Un amour prouvé par le sacrifice de Christ. Un amour qui donne naissance. Nous avions déjà vu une fois ensemble que tout chrétien ne pourra plus jamais dire qu'il n'a pas un Père parfait. Il a un Père parfait. C'est le premier fait. Nous sommes enfants de Dieu par l'amour que Dieu nous donne. Deuxièmement, enfants de Dieu non connus du monde. Le deuxième fait est que le monde ne nous connaît pas. Ils ne savent pas que nous sommes enfants de Dieu. Ils ne connaissent pas notre famille. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ni le Père, ni le Fils. Et Jean l'avait déjà dit dans son évangile, dans Jean 1, verset 10. Elle, donc il s'agit de la parole qui est Jésus, était dans le monde. Et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a pas connue. Donc ne soyons pas surpris si le monde n'est pas enthousiasmé par notre appartenance à Dieu. Vous allez dire à quelqu'un, « Ouais, je suis enfant de Dieu !» Puis il regarde et dit, « Pardon ?» Aucun enthousiasme. Aucun... Mais c'est normal. Ils ne connaissent pas Dieu, ni le Père, ni le Fils. Troisième fait, enfant de Dieu, pas encore pleinement manifesté. Le troisième fait nous est donné pour notre espérance. Nous sommes enfants de Dieu, ça c'est du présent, nous le sommes. Et dans l'avenir, il y aura du changement. Ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Il y a donc là le déjà et le pas encore. La transformation sera totale. Nous serons semblables à lui. Waouh ! Semblables à lui. Attention, nous ne deviendrons pas Dieu. On l'a vu la dernière fois. Ça, c'est une pensée gnostique, New Age, etc. Nous ne deviendrons pas Dieu, mais nous le reflèterons. Nous serons purs. Nous ne deviendrons pas Dieu, mais nous le reflèterons. Nous serons purs, libres de tout péché, heureux d'être dans sa présence. Et cela, c'est lors du retour de Jésus-Christ que ce sera pleinement manifesté. Nous avons une espérance. Notre enveloppe terrestre sera radicalement changée, comme la chenille qui devient un papillon. C'est un fait. Nous sommes maintenant enfants de Dieu et nous serons semblables à lui. Et le quatrième et non moindre, le moindre fait se trouve au verset 9. La semence de Dieu demeure dans celui qui est né de Dieu, dans l'enfant de Dieu. La semence de Dieu. En fait, nous avons reçu, si vous voulez, l'ADN de Dieu. C'est faux, ça. Nous avons reçu l'ADN de Dieu. Notre nouvelle nature est sainte par Christ. Notre nouvelle nature est juste par Christ et son esprit vit en nous. Pour tous ceux qui sont enfants de Dieu. Nous avons reçu l'ADN de Dieu. Notre nouvelle nature est sainte par Christ. Notre nouvelle nature est juste par Christ. Et son esprit vit en nous. L'apôtre Pierre définit cette notion qu'on a tout. Il dit, mais sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Nous naissons, ou bien je peux utiliser un autre mot, nous sommes générés, si vous voulez, par une semence d'un père. Tous ici. On est né par la semence d'un père. On est généré, si vous voulez, par la semence d'un père. Et de génération en génération, nous recevons une nature corrompue. Eh bien, l'enfant de Dieu est né spirituel par une semence incorruptible. Celle de Dieu. Et là, Pierre nous aide à le comprendre encore. Pierre 1,23 nous dit, « Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » L'enfant de Dieu porte en lui la semence de Dieu. Il est né de Dieu. Il est lié à Dieu. Il en est issu. Et ceci est vrai pour tous les croyants qui ont la même semence. Il n'y a pas des super chrétiens puis des pas super chrétiens qui n'ont pas la même semence. Non, tous. Et nous avons donc un lien commun. Nous avons un même Père. Ce Père est totalement séparé du péché. Et tous ces faits vont avoir des conséquences. Comme un pommier, par exemple, produira des pommes. Et nous ne pouvons pas séparer les conséquences des faits. On ne peut pas produire des pommes en étant un prunier. Non, ce n'est pas possible. Nous avons également vu dans le premier point que celui qui est pratique, nous ne pouvons pas séparer notre être spirituel de notre être physique. Ils sont totalement entremêlés. Un peu à l'image de la divinité et de l'humanité de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le fait d'être enfant de Dieu aura des conséquences pratiques dans notre vie. C'est notre troisième point, les conséquences de la vie de l'enfant de Dieu. Être enfant de Dieu a des conséquences. Tout comme être un oiseau ou un poisson a des conséquences. Un poisson, il va être dans l'eau, un oiseau, il va voler dans les airs. Okay? Et un enfant de Dieu va vivre les conséquences décrites dans 1 Jean 3. Et donc, comme annoncé au point précédent, nous en avons quatre dans le texte. Le premier, l'enfant de Dieu se purifie. L'enfant de Dieu se purifie. On reviendra sur ces éléments. Deuxièmement, l'enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. L'enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. Troisièmement, l'enfant de Dieu pratique la justice. L'enfant de Dieu pratique la justice. Et quatrièmement, l'enfant de Dieu aime son frère. Ce sont toutes des conséquences. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait pour devenir enfant. C'est quelque chose que l'on fait parce que nous sommes enfants. Premièrement, l'enfant de Dieu se purifie, les versets 3 à 8. Alors, l'enfant se purifie. C'est un lien très clair entre le fait de devenir enfant de Dieu et la sanctification objective. C'est-à-dire que parce que nous faisons partie de cette famille, nous allons vivre comme cette famille est. C'est parce que je fais partie de la famille de Dieu que je vis selon les traits de cette famille. Et le trait de famille principal de la famille de Dieu, c'est quoi? C'est la sainteté. Oui, l'amour, c'est vrai, fait aussi partie, on le verra. Mais c'est la sainteté. Et le texte le dit très clairement ici. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui, le Seigneur, est pur. Donc, c'est parce que je fais partie de la famille de Dieu que je vais vivre selon les traits de cette famille. Et le trait de cette famille principale est la sainteté. L'enfant de Dieu se purifie comme l'enfant se lave avec l'eau. Pourquoi je dis ça? Parce que ce n'est pas l'enfant qui enlève la boue, c'est l'eau qui l'utilise. De même, ce n'est pas l'enfant de Dieu qui ôte les péchés, c'est le Seigneur. Même s'il est dit qu'il se purifie ici, comme un enfant qui se lave avec de l'eau, c'est l'eau qui lave, ce n'est pas lui-même. La même chose ici, quand il est dit qu'il se purifie, eh bien, c'est le Seigneur qui purifie. Ça, vous le voyez donc au verset 5. Or, vous le savez, lui, le Seigneur, est apparu pour ôter le péché. C'est lui qui ôte les péchés. Pour se purifier, il faut aussi savoir quoi laver. Que faut-il laver? Et voilà pourquoi Jean donne une définition du péché dans 1 Jean 3:4. Parfois, je dis, si quelqu'un veut connaître la définition du péché, il sait compter jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Puis à la place du 2, il met Jean. 1, Jean, 3, 4. Voilà, il a trouvé. Définition du péché. Et ce verset, c'est vrai, n'est pas tout à fait facile à traduire. C'est pour cela que vous aurez toutes sortes de petites variantes, en fait, de ce verset 4, qui dit dans la colombe, « Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi, et le péché, c'est la violation de la loi. » D'autres disent, « Le péché est l'iniquité. » Ou encore, « Le péché est la révolte contre la loi. » Ou encore, « Le péché est ce qui est contre la loi. » Alors, si je traduis mot à mot, en fait, il y a deux mots. Il y a le mot « péché » et puis un autre mot. C'est comme ça, en fait, que c'est dans le grec. Hein. Le péché est, puis là, ils disent « anomia ». Ça veut dire « anti-loi »,« non-loi »,« absence de loi ». C'est ça, en fait, le péché. Donc, j'utiliserai le mot « anomia », comme ça, vous vous souviendrez. Il n'y a pas de loi, c'est ça, le péché. Pas de loi, sans loi. Le péché, donc, la méprise totale de la loi de Dieu. Sa mise de côté, c'est l'enfreindre, c'est s'écarter du commandement de Dieu, comme nous le voyons si souvent dans notre société et dans notre vie. L'enfant de Dieu cherche la pureté. Il ne veut pas vivre sans la loi de Dieu. Paul disait lui-même, ceux qui sont sans loi, je me fais tout à tous, hein, vous connaissez ces textes-là. Et sans, ceux qui sont sans loi, je me fais sans loi, même si moi-même je ne suis pas sans loi, il le dirait très clairement. L'enfant de Dieu cherche la pureté, il sait que le Seigneur est pur, est apparu pour ôter le péché, pour détruire les œuvres du diable. C'est donc auprès de Jésus-Christ qu'il va pour ôter ce péché. Il ne va pas enlever la loi. Parce que des fois, pour ne pas avoir de péché, on enlève la loi, comme ça on ne voit pas le péché, vous êtes d'accord? Mais ça ne l'enlève pas. La seule manière d'être libéré de ce péché, c'est d'aller vers Christ qui l'a porté, lui, et qui nous en libère. Alors la prochaine fois que vous allez pécher, vous êtes un grand prophète, désolé, pour vous dire que vous allez encore pécher, j'aimerais bien vous dire que ce n'est plus le cas quand le Seigneur reviendra, c'est vrai. Mais par exemple, en exagérant, vous savez que exagérer, c'est mentir en fait. Ou minimiser, c'est aussi mentir, si jamais. Hein. Donc la prochaine fois que vous exagérez, est-ce que vous allez chercher, ou minimiser, est-ce que vous allez chercher la pureté? Est-ce que vous allez reconnaître votre péché et dans la repentance recevoir le pardon? Ou bien est-ce que vous allez chercher à effacer la loi, d'être anomia, si vous voulez, en disant, oh mais c'est pas vraiment un mensonge. On écarte la loi pour se dire je suis pur. Ça marche pas. C'est pas en écartant la loi que nous sommes purs. C'est en ayant Christ qui nous purifie que nous pouvons être purs. Un enfant de Dieu se purifie comme un enfant qui prend l'eau pour nettoyer la boue. L'enfant de Dieu prend l'œuvre de Christ pour nettoyer son péché. Voilà une première conséquence d'être enfant de Dieu. Celui qui est enfant de Dieu va chercher à se purifier. Deuxièmement, l'enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. Et c'est une difficulté dans le texte, si ce n'est pas la difficulté dans ce texte pour beaucoup de monde en fait. Et nous les trouvons dans les versets 6 et 9. Je vous les relis et puis vous comprendrez. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Au verset 9. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher puisqu'il est né de Dieu. Ah mince, mais je suis chrétien ou pas? C'est écrit que celui qui est chrétien ne pêche pas, puis moi je pêche. Vous voyez un petit peu, ça peut vraiment poser un grand problème ici. Mais cette difficulté n'en est pas une, parce que le temps du verbe utilisé dans l'original permet de comprendre qu'il s'agit ici d'une action continue. Pécher continuellement, vivre dans le péché. Et nous voyons aussi, avec les éléments du premier chapitre de Jean, qui dit que celui qui dit qu'il n'a pas péché est un menteur, hein, ou bien même au chapitre 2, verset 1, quand il dit « Je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas ». Et si quelqu'un a péché, il parle là des chrétiens, vous avez un avocat auprès du Père, vous voyez. Ça signifie ici que l'enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. Il ne veut pas, il ne peut pas continuer de continuellement pécher sans que cela le dérange. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Ce n'est pas possible. Si vous pouvez vivre dans le péché continuellement, sans vous repentir, ça ne vous gêne pas, ben je pense que c'est un test assez clair, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Voilà. C'est peut-être un peu direct, mais c'est vraiment ça. Maintenant, c'est vrai que nous continuons à vivre le péché, malheureusement. Et c'est pour ça que nous avons un avocat auprès de Dieu. La semence de Dieu est dans l'enfant de Dieu. Et le péché va agiter sa conscience. Et il va se repentir. Il ne peut pas pécher sans que cela le dérange. Pour ça que c'est ici, il ne pêche pas. C'est écrit ceci, dans une notion continuellement. C'est comme s'il y avait maintenant une clochette sur le couvercle de la boîte à bonbons. Hein. Il ne peut plus en prendre sans que ça fasse du bruit et que cela lui rappelle les méfaits du sucre. C'est plus possible. Cette compréhension permet donc d'harmoniser les textes du début de Jean, où il est dit que celui qui dit ne pas avoir péché est un menteur. Ou encore d'autres passages où Jean parle du péché des frères dans la foi. Vous savez, l'enseignement qui dit que le chrétien ne commet plus aucun péché, déjà c'est une hérésie, et ça a empêché de nombreuses personnes de se repentir et d'être libérées de terribles poids et de rétablir des relations. Le chrétien, c'est vrai, ne peut plus pécher sans que cela le touche. Il ne vit pas dans le péché, c'est vrai. Et lorsqu'il pêche, il a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Voilà pour cette deuxième conséquence. L'enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. Troisième conséquence, l'enfant de Dieu pratique la justice. C'est le verset 29 que nous voyons après au verset 7 et au verset 10. Hein, c'est répété trois fois. Quiconque pratique la justice est né de lui. Quiconque ne pratique pas la justice, au verset 10, n'est pas de Dieu. L'enfant de Dieu pratique la justice. Il est rendu juste par le Christ qui est juste et il vit sa nouvelle identité. Un boulanger fait du pain. Un électricien installe le réseau électrique. Une vache rumine. Un enfant de Dieu pratique la justice. C'est QFD. On la refait là. Un boulanger fait du pain. Un électricien installe le réseau électrique. Une vache rumine. Un enfant de Dieu pratique la justice. Ça fait partie de sa nature. C'est une marque de fabrique. C'est ce qui fait la différence entre un faux et un véritable. Et nous l'avons déjà vu lorsque nous avons parlé du test moral. Celui qui a connu Dieu garde ses commandements. Vous pouvez le relire, ce verset 3 du chapitre 2 de 1 Jean. À ceci, nous reconnaissons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. L'enfant de Dieu pratique la justice. C'est aussi naturel que le chat qui marche sur quatre pattes et l'homme sur deux pieds. Je n'ai pas dit qu'on le faisait toujours, hein. Des fois, on marche à quatre pattes, voilà. C'est vrai. Ben, c'est comme la justice. Et qu'est-ce qu'on fait quand on vit quelque chose qui n'est pas juste? Lumière, nous sommes de la lumière. Tout se tient ici dans cet épître. La lumière l'éclaire. Péché, qu'est-ce qui se passe? Hop, on va se repentir vers Christ et le sang de Christ nous purifie de tout péché. Voyez? Tout se tient. Dernier élément, l'enfant de Dieu aime son frère. L'amour que Jean va développer dans le verset suivant ici, donc je ne vais pas aujourd'hui maintenant faire un développement, puis ça sera la prochaine prédication, qui sera une prédication juste sur ce sujet-là, pour les prochains versets. Et là, je rejoins donc la réponse qui a été donnée dans le public tout à l'heure. Quelle est la marque du chrétien? C'est l'amour. C'est l'amour, la marque du chrétien. D'ailleurs, peut-être connaissez-vous Francis Schaeffer, il a écrit un petit livret intitulé « La marque du chrétien ». Ce n'est pas très long à lire, je vous encourage à le lire d'ailleurs. Cette marque n'est pas le parler en langue, ou une expérience mystique, ou toute autre connaissance particulière. Non, la marque du chrétien, c'est l'amour pour le prochain, et un amour particulier pour le peuple de Dieu, pour les frères et sœurs dans la foi. Comme le Père Céleste, un amour général pour tous les hommes, et un amour particulier pour son peuple, pour sa famille. Courte conclusion, verset 29 du chapitre 2 que nous avons lu dès le départ. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Celui qui est, pratique. Le canard cancane, la pie jacasse, le chien aboie, et l'enfant de Dieu pratique la justice. Okay? L'enfant de Dieu est né de Dieu. Il ne l'a pas produit lui-même. On ne peut pas produire sa naissance, mais on peut vivre la vie que l'on a reçue de notre naissance. Celui qui a l'espérance d'être un jour semblable à lui se purifie comme lui, le Seigneur, est pur. Et Jean termine ici ce passage du jour par une affirmation solennelle. C'est le verset 10 qui dit qu'il n'y a que deux possibilités. Il n'y a que deux possibilités. Être enfant de Dieu ou être enfant du diable. Il n'y a pas de neutralité. Être enfant de Dieu ou être enfant du diable. Et quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Alors la question que vous avez sûrement, ou que je vais maintenant suggérer, êtes-vous un enfant de Dieu? Alors si oui, eh bien, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Tout ce qui a été dit ce matin concernant l'enfant de Dieu vous concerne. C'est vrai. Et vivez selon les principes de cette famille, dans la joie, dans la paix, dans savoir aussi que ce Père céleste va nous aider, va nous accompagner. Et si vous n'êtes pas enfant de Dieu, eh bien, repentez-vous pour être délivré du pouvoir du péché et de son royaume dirigé par le diable. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous enseigne et qui nous guide. Nous te remercions parce que tu es un Dieu qui ne sépare pas les choses. Une personne est complète, totale. Il n'y a pas de schizophrénie dans notre façon de vivre. Nous te remercions parce que tu nous permets d'entrer dans ton cheminement. Nous te remercions parce que tu es celui qui transforme les vies. J'aimerais, Seigneur, te prier pour chacun de nous ici ce matin. Que, Seigneur, tu puisses permettre que chacun ici, devant toi maintenant, puisse être au clair. Suis-je un enfant de Dieu ou suis-je un enfant du diable? Que, Seigneur, cette révélation puisse, si elle démontre que il n'est pas enfant de Dieu, Seigneur, permets par ton esprit une vraie repentance et la foi en Jésus-Christ. Pour se réjouir ensuite de ton œuvre de naissance, ton œuvre d'amour. J'aimerais te prier pour tous ceux qui savent qu'ils sont tes enfants, ici, mais qui parfois doutent, parce qu'ils disent, mais est-ce que vraiment je vis ça? Est-ce que vraiment je vis cette nature? Seigneur, j'aimerais te prier d'encourager, de fortifier, de bénir, de permettre, Seigneur, de ne pas se laisser égarer par les mensonges de Satan qui veut nous faire croire que « Mais regarde, tu pêches encore, c'est écrit que le chrétien ne pêche pas. » Seigneur, donne-nous de lui répondre. Non, je ne pêche pas continuellement, je ne veux pas pêcher continuellement et je vais vers Christ qui me purifie de tout péché. Seigneur, nous te remercions parce que nous avons une vraie espérance. Et que ce que nous vivons maintenant, eh bien, nous avons déjà cette relation avec toi. Mais nous avons cette espérance d'avoir une pleine transformation. Et un jour, nous serons semblables à toi. Oh, quelle gloire! Et nous te prions que ce retour glorieux de Christ nous réjouisse, nous fortifie et nous donne, Seigneur, d'être puissamment encouragés. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.